RTVFM.
Music Story.
Et bonsoir tout le monde, et nous voici de retour dans votre émission musicale préférée de tous les Français de la région de Serres, Music Story.
Et oui.
Ça va bien?
Ça va et toi?
Ça va la forme, Joe?
Ça va, nickel.
Oh, il fait chaud, ouais?
Eh ouais, il fait chaud, c'est la canicule.
Ça transpire, hein. Eh Gilbert? Oui, pardon.
Oh là là, oui, moi je dirais pas que la région de Serres, un peu partout d'ailleurs dans le monde.
Ouais, ouais, ça transpire de partout. Ouais.
Oh, vous êtes écoutés partout les gars. Oh là là.
Ce soir ça va encore plus transpirer avec notre émission.
Ce soir ça va, ouais, ça va encore plus transpirer, là. Ça va envoyer de la guitare. Hein.
Ouais, je pense que ça va donner, oui.
Ça va. Bon, préparez-vous alors, parce que ce soir c'est la dernière émission de l'année... De l'année scolaire, on va dire, puisque vous savez qu'on fait une pause jusqu'à octobre, on se retrouvera en octobre. Et donc, pour la dernière avant les vacances de l'été, nous vous avons gâté, on va finir en beauté sur une note de rock'n'roll, puisque c'est comme ça la vie, ça vaut la peine d'être vécu comme ça, il faut que ce soit rock'n'roll, hein, n'est-ce pas, Joe? Donc, le groupe de ce soir, eux aussi, ont passé leur vie à appliquer au pied de la lettre le style de vie sexe, drogue et rock'n'roll. Et cela depuis bien avant qu'on naisse, ils sont toujours là en vie, comme si de rien n'était, ouais, ou presque.
Ou quoi. Presque, ouais. Ils sont là, mais bon.
Ils sont plus trop là.
Ils sont plus trop là. Alors, notre histoire ce soir commence.
Là, vous êtes vache. Ils sont toujours là.
Oui, ils sont toujours là.
Il en manque quelques-uns quand même.
Un peu plus à côté de leur guitare, mais ils sont là.
Ouais, ils sont plus près de la fin que du début. Alors, en 61. Notre histoire commence sur le quai de la gare de Dartford en Angleterre. Donc deux amis d'enfance se re-rencontrent par hasard. Le premier possède dans ses mains des disques de Chuck Berry et le best-of de Muddy Waters, des albums qui sont introuvables en Grande-Bretagne à cette époque-là. Ce qui incite donc l'autre ami à venir lui parler. L'un s'appelle Mick et l'autre Keith. Ils ne le savent pas encore. Mais dans quelques temps, ces deux amis vont créer le groupe de rock le plus connu de tous les temps. Les Rolling Stones.
Eh oui.
Mais avant de vous passer la première musique, juste un chiffre pour montrer qu'ils rigolent pas. 1,5 million, ça c'est le nombre de personnes qui étaient présentes à leur concert en 2006 à Copacabana, à Rio de Janeiro, sur la plage.
1 million et demi.
1 million et demi, voilà. Ça c'est le plus grand nombre de personnes présentes sur un concert de rock. Pas le plus grand nombre sur un concert.
Je crois que c'est Jean-Michel Jarre.
Ouais, c'est ça. C'est 3 ouais. millions ou 4. Voilà.
Mais voilà. Bon, c'est énorme.
Un million et demi. Si vous voyez les photos, regardez sur internet. C'est...
Ils sont pas tous sur la photo.
Ouais. Même en selfie, ça passe pas.
Non, c'est sûr.
Donc voilà, je vous présente ce soir la première chanson. Vous la connaissez puisque vous l'écoutez à chaque début d'émission.
N'est-ce pas?
En mai 65.
Voilà, là.
Les Rolling Stones sillonnent les États-Unis à l'occasion de leur troisième tournée américaine. Lors de la nuit du 6 au 7 mai 65, alors qu'il est endormi dans un hôtel, Keith Richards entend un riff de guitare dans son sommeil.
Ça m'arrive, mais ça n'a jamais donné la même chose.
Non, tu t'appelles pas Keith. Afin de ne jamais perdre les idées musicales pouvant surgir de manière fugitive, il a pris soin d'installer un petit magnétophone à côté de son lit. Donc là, à ce moment-là, il se lève et il se dit « je vais enregistrer tout ça ». Et il y a une phrase qui sort qui est « I can't get no satisfaction ». Un couplet qui est mélodique, bien sûr. Et il se rendort aussitôt. Donc au petit matin, il se souvient d'avoir noté quelque chose, d'avoir enregistré sur son magnétophone. Il le réécoute et il y a donc ce riff de guitare pendant quelques secondes qui deviendra mythique.
Mythique.
Et à la suite de ce riff, il y a 45 minutes de ronflement, puisqu'il s'est endormi, il avait laissé l'enregistrement.
Ça deviendra moins mythique.
Voilà, ça c'est moins mythique, on en parle moins. Donc la première chanson de ce soir, c'est bien sûr Satisfaction.
Et vous imaginez quand même les gars, tous les matins quand ils se lèvent, ils mettent les pieds sur des billets verts, de tout. C'est incroyable.
Ah, si c'est que des billets verts, ça va.
Mais... Ouais, bah attends, les billets verts, quand même. Hein. Moi, on m'en donne quelques-uns, je te dis rien. Ah. Bon, allez, c'est parti.
RTVFM. Tout de suite, une nouvelle heure.
Une nouvelle heure.
De son
Music Story.
I can't get no satisfaction.
Et de retour sur Music Story avec le tube que vous venez d'écouter, Satisfaction.
Ouais, il est beau bon, celui-là.
Il est bon, hein. C'est pour ça qu'on l'a mis en indicatif.
Voilà,
hein.
Tu le sais.
Bon, donc en 61, Keith et Mick donc, forment leur premier groupe avec Dick Taylor et donnent alors naissance aux Little Blue Boys et The Blue Boys. And the Blue Boys. Ça, c'est le nom du premier groupe. À ce moment-là, donc, leur seul public, c'est la mère de ce dernier qui accepte bien gentiment que les trois compères répètent chez elle. C'est dur, le début.
Eh bien oui, c'est comme tous les débuts de groupe, notamment ouais. Dans le rock'n'roll, là, c'est toujours un peu plus compliqué. Et donc, tout à l'heure, on vous a parlé de la rencontre avec Mick et Keith. Mais d'un autre côté, il y a eu la formation, une formation importante menée par le futur membre des Stones, donc Brian Jones. Brian Jones est venu s'installer à Londres dans le but de former un groupe qu'il appellera les Rolling Stones. Et non pas les Rolling Stones. Donc au début c'était les Rolling Stones. Et ce nom du groupe, donc selon la légende, a été trouvé par Brian quand il a été interviewé par un journaliste. Donc c'était une interview téléphonique et donc le journaliste lui demande le nom du groupe qu'il a envie de créer. Il a aucune idée qui lui vient en tête. Et à ses pieds, il y a une pochette de vinyle qui est par terre, une pochette de vinyle des Muddy Waters. Et la première chose qu'il lit sur la pochette de vinyle, c'est le titre de la chanson Rolling Stone. Donc sans le G de Rolling et sans le S de Stones. Donc c'est parti de là. Et puis ensuite, Brian donc, poste une annonce afin de trouver des musiciens. Il va alors rencontrer le pianiste Ian Stewart, le chanteur Andy Wayne et le guitariste Geoff Bradford. Et Paul Pond lui sera au chant et enfin le batteur Charlie Watts. Et donc en avril 1962, le Blues Incorporated, groupe monté par Alexis Kroner et ouvert à de nombreux musiciens, joue ses premiers concerts. Et je vois que tu galères à poser tes fiches sur le tablier. Tu sais. Ah là là, tu es un phénomène. Bref. Et donc parmi les musiciens qui montent sur scène, Jack Bruce, Ginger Baker, Charlie Watts et aussi le groupe formé par Brian Jones, donc Rolling Stone. Ce dernier se produit sous le nom d'Elmo Lewis et impressionne le public en jouant de la guitare slide, donc qui à l'époque était inconnue encore en Angleterre.
C'est ça, c'est le fait de jouer la guitare avec le tube en acier sur les cordes et qui fait un petit espèce de...
Tu mets dans le doigt, c'est ça? C'est ça, ouais. C'est l'inverse du...
Du médiator.
Voilà, c'est ça.
Donc Mick Jagger, Keith et Dick Taylor rejoignent après le Blues Incorporated, et mettant d'assez éloigné du rhythm and blues pur et dur pour jouer donc du rock and roll, notamment donc du Chuck Berry, du Jimmy Reed. Brian Jones rencontre pour la première fois Mick Jagger, Keith et Dick le 2 avril 62 au Ealing Jazz Club. Paul Pond ne souhaite cependant pas être le premier chanteur de ce groupe qui est le Rolling Stones. Et il quitte le groupe. Donc Alexis Corner suggère à Brian le chanteur Mick Jagger qui a fait sa place dans le Blues Incorporated. Donc ce dernier impose alors Mick dit si je viens c'est avec Keith et Dick Taylor. Donc Geoff Bradford quitte le groupe et Ian Stewart, Brian, Mick, Keith, Dick forment l'ossature du groupe, donc qui prendra en juin le nom, donc le vrai nom des Rolling Stones.
Voilà, c'est né.
Voilà, les Rolling Stones, le vrai. Notre prochaine chanson viendrait donc apparemment du jardinier de Keith Richard, Jack. Jack le jardinier.
Jack le jardinier, il est 20 ans, mais
c'est Jack le jardinier. C'est pas Jack le chien. Il y a plusieurs versions qui diffèrent selon qui raconte l'histoire. Ouais, ils sont pas trop nets, ces Rolling Stones.
Ah, hein. Ben après, c'est les légendes qui se créent, tu comprends?
C'est ça.
Et d'ailleurs, Keith racontera que, je le cite, dans les petits motels où nous séjournions, la seule chose que vous pouviez utiliser pour enregistrer, c'était cette nouvelle invention appelée le magnétophone en cassette. Donc tu t'imagines déjà à l'époque, il faut se recontextualiser.
Ouais. Voilà.
En jouant sur une guitare acoustique, vous pouviez surcharger le lecteur de cassette Philips jusqu'au point de distorsion. Et lorsque vous le rejouiez, cela avait l'allure d'une guitare électrique. Déjà, les mecs, pour calculer ça, ils étaient loin, quand même. C'est déjà avant leur époque. Mais avant de vous passer la deuxième chanson qui va venir, on vous rappelle que vous pouvez nous écouter donc sur le web, sur la web radio.
www.rtvfm.net.
C'est ça. Et sur Facebook, Vous pouvez réagir en allant sur la page de la radio. Vous allez voir nos deux courges sur l'étiquette là, avec la tête des Rolling Stones. On est plus frais qu'eux, donc je suis content. Et vous pouvez réagir en commentant en direct et on pourra réagir à vos commentaires.
Donc
si
n'hésitez
vous voulez
pas à commenter.
Voilà.
Dites
un peu ce que vous en pensez.
Voilà. Positif ou négatif, ouais, on prend tout.
Voilà. Surtout quand on est célibataire. Bon, allez, on vous passe à la deuxième chanson qui s'appelle Jumping Jack Flash des Rolling Stones.
RTVFM. Toujours une longueur d'avance. Music Story. RTVFM. Intensément musique.
Jumping Jack Flash sur Music Story. On était en train de dire des bêtises. Bref, c'était la coupure musicale. Donc, les Rolling Stones, comme tout bon groupe de rock avant d'être célèbre et de facturer leurs prestations 7 millions d'euros comme en 2002 pour un investisseur texan, ils ont galéré. Bon, après, ça allait mieux en 2002, mais avant, ils ont bien galéré quand même, tu vois. Donc Mick Keef et Brian aménagent au 102 Edwidge de Grove dans le quartier de Chelsea. C'est une période de vache maigre, voilà, ils galèrent pour se nourrir, pour se chauffer. Ils vivent de pas grand chose, de petits cachets obtenus pour quelques petits causeurs. Néanmoins, c'est une période musicale assez faste pour Brian et Keef qui passent de longues journées à travailler le jeu de leur guitare. leur jeu de guitare plutôt, parce que sinon ça, ça fait bizarre, tu vois. Le premier concert des Stones se passe au Marquis à Londres le 12 juillet 62. Le groupe est alors composé de Brian, Mick Keefe, Ian Stewart au piano, Dick Taylor à la basse et Mick Avory à la batterie. Les Stones jouent comme interval band juste une demi-heure. Donc c'est le temps que le groupe principal se repose, ils passent entre temps, ils jouent. Ils interprètent plusieurs titres ce soir-là. Et Keefe lancera à Brian cette phrase tristement célèbre: tu n'arriveras pas à 30 ans, pas vrai?
Et toi, je sais pas pourquoi.
Et toi, tu... bon, eh ben ouais, on fait encore des groupes qui boivent que de l'eau, c'est peut-être pour ça. Donc, les Stones jouent de plus en plus et les salles se remplissent rapidement. Alors qu'en parallèle, les Beatles, et oui, c'était la même époque, viennent de sortir Love Me Do, un jeune publicitaire de 19 ans qui a déjà travaillé avec entre autres Bob Dylan et qui rêve de manager les Beatles, se trouve au concert des Stones ce soir-là. Et c'est la révélation, puisque le lendemain, il signe le contrat de management avec les Stones.
Ah oui, le coup de foudre. Quoi.
Le coup de foudre.
Tu m'étonnes.
Et tu m'étonnes, les Stones, c'est les Beatles. Quoi. Pas compris, le mec.
Apparemment, il y a toujours une légende sur les Beatles et les Rolling Stones qui étaient rivaux, mais en fait, ils ont toujours été amis, ils ont même joué ensemble. C'était une histoire de marketing qui était faite exprès pour...
Ça commençait déjà à l'époque.
Ouais.
Comme Booba et Caris, frère.
Ouais. Mais là, on parle pas de la même chose. Là. Nous, on parle de musique. Là.
Voilà, exactement.
Donc, pour notre prochaine chanson, Keith Richards nous confie ce titre. Ce titre, en fait, qui parlait du fait de se rendre aux USA alors qu'il ne souhaitait pas spécialement en partir. Son fils Marlon n'avait encore que 2 mois. Combien souvent Keith a eu l'idée d'un bout de la mélodie et aussi la phrase sur les chevaux sauvages. Lui, il y a toujours des petits trucs qui lui apparaissent comme ça, par enchantement.
Il n'avait pas besoin de, tu vois, il était déjà de base, il était bien, tu vois.
Donc Mick, il s'est attelé à l'écriture. Il en est sorti une complainte assez attristée où il semble évoquer une rupture amoureuse avec une femme qu'il dépeint sans grâce, qu'il ne peut laisser filer entre ses doigts. Et pour ajouter un petit peu de poésie là-dedans, Keith a aussi confié que le refrain de la chanson a été terminé dans les toilettes du studio.
Ah, voilà. Quelle poésie.
Ami poète.
Ami poète, bonsoir.
On vous propose donc cette troisième chanson, Wild Horses.
Music Story.
It's easy to do. The things you wanted, I bought them for you. Graceless lady, you know I am. You know I can't let you slide through my hands. Wild horses couldn't drag me. To show me the same. No sweeping exits. Oh, off stage light.
could make me feel bitter or treat you unkind. Wild horses couldn't drag me away. Wild, wild horses couldn't drag me away.
Music Story, vous venez d'écouter Wild Horses des Rolling Stones.
Ouais, celle-là, le porte. Hein.
Celle-là, elle est bien.
Ouais, elle est bien. J'aime beaucoup ce mot, ça.
Pas mal. Donc, on continue. Ils font leur première apparition télévisée et leur look, pourtant si conventionnel de nos jours, paraît outrancier. Donc, leurs cheveux longs, qui recouvraient juste les oreilles, font scandale. Ce look original et leurs attitudes parfois méprisantes donnent des idées à Andrew Loog Oldham. Donc, afin de se démarquer des Beatles, apparus un peu plus tôt et dont la popularité est exceptionnelle, le jeune manager des Stones leur crée une image de mauvais garçon, en opposition aux allures donc des gentils gendres, des Fab Four qu'on appelle les Beatles. Donc c'est à cette époque que Brian Jones aussi commence à manquer quelques concerts pour des raisons de santé et à se perdre aussi dans ses conquêtes féminines et leurs conséquences. Il a déjà deux enfants, sa position de leader du groupe est de plus en plus contestée et lors d'un concert à Liverpool, les Stones se découvrent que Brian reçoit un salaire supplémentaire en qualité de leader du groupe. Donc cette révélation est le début d'une fissure qui se crée entre Jones et le reste du groupe qui aboutira à un terme, à sa exclusion donc en juin 69. Et en 65, après la sortie de leur second album britannique intitulé The Rolling Stones numéro 2, Mick Jagger et Keith décollent enfin comme compositeurs. Donc, si les Beatles signent des bluettes bien sentimentales et innocentes, du moins au début, les Stones se distinguent par leur ton ironique et sarcastique de la société et leur rapport aux femmes parfois qualifiées de sexistes.
Juste parfois.
Juste parfois.
Et d'ailleurs, en parlant des femmes, la prochaine chanson, ben, ça parle d'une femme, hein, puisque la prochaine chanson...
belle transition.
N'est-ce pas? C'est Angie. Donc, et son sublime suite d'accord. Donc, à ce propos, Richards... puisque c'est Keith Richards qui a imaginé justement la sublime suite d'accords qu'il y a dans cette musique. Et à ce propos, Richards a des versions un peu contradictoires. Mais ce qui est sûr, c'est qu'à cette époque, sa compagne Anita Pallenberg se préparait à accoucher d'une fille. Il a donc d'abord relaté qu'il avait opté pour le prénom Angela. Mais dans son autobiographie qui s'intitule Life, Richards a toutefois changé de version et a déclaré qu'à cette époque, les couples ignoraient quel serait le sexe de l'enfant. Le nom lui serait donc simplement venu comme ça, en fait, voilà. Et le 26 mars 1972, il est entré à la clinique de Vevey, ouais, je sais pas, voilà, située sur la rive du nord du lac Léman, au vu de faire cesser sa dépendance à l'héroïne. Oui, parce qu'il tournait pas qu'à l'eau, on a dit tout à l'heure déjà. Et donc, Angela Richards est née 2 semaines plus tard, le 17 avril 1972. Et de fait, il apparaît que le couple avait d'abord retenu un autre prénom, celui de Dan de Lyon. Donc, le nom d'une chanson, quoi, c'est le nom d'une chanson qui a été enregistrée en 1967. Donc, si elle nous écoute, Angie, franchement, tu as de la chance.
L'héroïne, ça passe, fait pas que du mal.
Dan de Lyon, ça aurait pas fait. C'est pas mal. Des fois, il y a des trucs bien. Voilà. Donc, le titre Angie a plu à Mick Jagger qui s'est mis à écrire la chanson, celle d'un amour qui touche à sa fille. Et oui, c'est Angie et c'est tout de suite sur Music Story.
RTVFM Music Story. We'll be right back.
Angie sur Music Story, celle-là, voilà, quelle bonne idée il a eu aussi là, de, ben, je sais pas, de rêver encore une fois une nouvelle musique.
Ouais.
C'est énorme. Hein.
Là aussi, il a dû avoir un baby boom après cette chanson. Je
pense. C'est pas faux. Il devrait calculer ça.
C'était Scorpion hein, qui avait créé le baby boom.
Ah oui, ça, je savais pas ça.
Non, tu te rappelles pas ? Sur les solos de Scorpion.
Ah, peut-être. Mais ça, c'est un mythe. Bon, ben, je sais pas. Bref, c'était pas notre époque. Peut-être on est né sur ça, on le sait pas. Hein. Donc on vous rappelle que vous pouvez réagir aussi à notre émission sur Facebook, sur la page de RTVFM. Pour l'instant vous êtes zéro à avoir réagi. Donc, donc voilà. On offre, je sais pas, on offre un truc au premier, je sais pas quoi, on offre un truc. On revient à nos moutons. En 1966, les Rolling Stones, ça sera pour eux l'année des dernières tournées, puisqu'ils vont effectuer un grand break. Voilà. Ils avaient tourné de façon ininterrompue depuis leur début, donnant entre 250 et 300 concerts par an. Voilà.
Ça donne. Hein.
Quand tu sais qu'il y a 365 jours dans l'année, ça fait énorme, c'est énorme. Ouais. Comme les Beatles, toujours eux, les Rolling Stones avaient subi depuis leur début l'hystérie des foules dans les salles et en dehors, phénomène qu'on appelait la Beatlemania. Donc pour les Stones, je sais pas, on s'en foutait en fait. Voilà. Particulièrement éprouvant, les concerts des Stones tournaient souvent à l'émeute à cause des fans qui tentaient de monter sur scène et des bagarres dans les publics. Dans le public, pardon. De nombreuses fois, les Rolling Stones furent contraints de s'enfuir de scène au bout de quelques minutes, poursuivis par des fans. Les coûts des dégâts et le nombre de blessés sont parfois importants, comme à Blackpool, à La Haye ou à Paris. Mais il y a plus important, ce que tu peux nous dire.
C'était le 6 décembre 69, c'était le festival d'Altamont. C'était la banlieue de San Francisco. Et après quelques 300 000 spectateurs, donc c'était l'événement, il a attiré 15 fois plus de monde que prévu en fait. Le service d'ordre est assuré par les Hells Angels, rien que ça. Donc c'était des motards un peu mafieux quoi.
Et comment on les payait ?
Qui aimaient la bagarre, qui étaient rémunérés donc en canettes de bière.
Ça c'est pas mal.
Voilà. Donc très vite la situation dégénère, les Hells cognant sur tout ce qui bouge. Drogués jusqu'aux yeux, la foule devient incontrôlable. Marty Balin, le chanteur du groupe Jefferson Airplane qui jouait...
Drogués jusqu'aux yeux.
Ouais,
ça
ouais.
Ça veut dire que j'ai les yeux éclatés, quoi.
Je t'ai déstabilisé. Alors, tu reviens à ton deuxième mot, deuxième phrase. Allez.
Jusqu'aux yeux. Donc, la foule était incontrôlable, forcément. Marty Balin, le chanteur du groupe Jefferson Airplane, donc, qui jouait dans ce festival, est frappé au visage par un biker. Face à ce déchaînement de violence... les Grateful Dead, un autre groupe, refusent de se produire. À 3h du matin, les Rolling Stones arrivent et se mettent en scène à 3h du matin.
Ils sont chauds.
Ouais. Et ils commencent à interpréter Under My Thumb, c'est un bon tube aussi. Là, il y a un jeune de 18 ans, Meredith Hunter, qui brandit un revolver, probablement non chargé, on ne sait pas. Lui, à ce moment-là, il se fait poignarder à plusieurs reprises par un membre des Hells Angels. Donc, cet ado mourra suite des coups portés. La tragédie d'Altamont a probablement scellé la fin du mouvement hippie. Ce soir-là, il y aura eu 4 morts, rien que ça, pour un concert. Merci. Et une phrase mythique, alors lui aussi sort des trucs toujours à propos de ce concert, qui dira « Dans l'ensemble, c'était un bon concert.
Ouais, » Keith Richards.
Dans l'ensemble, ça allait, pas mal. Donc, prochaine chanson. La toute première inspiration pour ce morceau est venue alors que le groupe était en tournée en Europe durant l'année 76. À cette époque, une nouvelle vague musicale se dessine, ça s'appelle le punk. Elle se développe en partie en réaction avec les groupes Baba Cool à la Yes ou Emerson, Lake et Palmer, dont la musique de plus en plus sophistiquée commence à devenir prétentieuse et ennuyeuse. Donc un soir de février 77 à Toronto, alors que Keith Richard vient d'être arrêté pour possession de drogue, Jagger se retrouve dans un club de Toronto, El Mocambo, et l'organiste Billy Preston, qui s'est initialement rendu célèbre en jouant Get Back des Beatles, est présent et il lui montre comment fonctionne un beat de dance sur 4 temps. Donc Jagger, il apprend vite fait la guitare, il démarre une répète, et il développe quelques phrases avec une voix un peu de fossé à la mayonnaise qui semble prendre.
De fossé à la mayonnaise, il n'y a rien là.
Donc, Miss You, le tube apparaît petit à petit, il prend forme. et entraîne l'album de Some Girls qui se classe à son tour numéro 1 et devient la plus grosse vente des Stones. 6 millions d'unités vendues. Que dire ? Les punks peuvent aller se rhabiller à cette époque-là.
Tout à fait.
Et de suite donc le tube qui s'appelle Miss You.
Bienvenue sur la radio 100% tube.
RTV FM, Music Story.
De retour sur Music Story avec les Rolling Stones aujourd'hui.
Miss you.
Miss you. Donc désolé pour les fans, hein, une heure c'est vraiment court pour parler des Stones. On est obligé de couper beaucoup de choses.
Ah ben oui.
Même si Mick Jagger nous écoute, désolé. Hein.
Alors la direction vient d'appeler, on peut continuer encore une heure. Ouais, mais bon, vous n'avez pas de quoi.
On n'est pas prêt. Improviser, mais ça va être chaud les gars.
Alors, quels sont les ingrédients d'un tel succès, Simon ?
Eh bien, mon cher Johan, dans un premier temps, c'est la voix de Mick Jagger, forcément, qui chante aucunement comme les autres chanteurs de rock. Parce que il est
déjà.
La plupart du temps, les chanteurs de rock, ça s'exprime dans un contexte dérivé de la musique européenne, ce qui signifie qu'ils interprètent des mélodies. Mais lui, il s'inscrit pas dans ce courant-là, et sa façon de s'exprimer, c'est de débiter et de hacher les mots. Mais c'est pas comme la façon d'un chanteur blanc, en fait. Elle se rapproche davantage d'un phrasé d'un Otis Redding, qu'on fera probablement, ou d'un James Brown. Et oui, Jagger est un chanteur en réalité de R&B. Un chanteur de R&B dans un groupe de rock. Mais what the fuck, vous allez me dire, mais qu'est-ce que c'est,
Rhythm and Blues, hein, pas...
Oui, bien sûr, mais bon, c'est quand même du rock, quoi. Et donc il dira, je ne me considère pas comme la meilleure rock star, et cela n'a jamais été le cas. Je ne suis pas intéressé par le rock'n'roll blanc. C'est en 1975 qu'il déclare ça. Ensuite, il y a Keith Richards, qui est le gardien du tempo, on peut dire. Ce qui rend le son des Stones si rare, tient donc en premier lieu de cette combinaison, un chanteur de R&B sur un rythme de rock teinté de blues. Il existe une autre particularité pardon, de la sonorité du groupe que Bill Wyman a dévoilé à Victor Bourkis, biographe de Keith Richards. Tous les orchestres suivent le batteur sauf nous. Chez nous, le batteur suit le guitariste rythmique, à savoir Keith Richards. Et oui, celui qui marque le tempo, celui sur lequel s'ajustent les autres musiciens, c'est Keith. Et enfin, il y a un batteur plus ou moins swing. Voilà, du coup, on ajoute à cela même Watts, qui est un jeu de batterie très particulier, assez basique, mais qui trouve son origine dans le jazz. Et on obtient le troisième ingrédient, un certain sens du swing que l'on rencontre rarement dans la frappe des batteurs de rock.
Ça, c'est sûr.
Voilà. Keith Richards a commenté ainsi la chose. Je ne sais pas comment il fait pour être aussi bon. Il sera le dernier à être d'accord. Mais pour moi, il est LE batteur. Il n'existe pas beaucoup de batteurs rock qui aient du swing. La plupart ne savent même pas ce que le mot veut dire. Donc on se résume. Un chanteur de R&B qui s'exprime sur la rythmique rock d'un champion du genre. Un batteur swing qui se cale sur ce même guitariste. Les Stones, c'est cela et bien d'autres choses, mais ces trois facteurs se distinguent clairement ce groupe et lui donnent, lorsqu'il est au meilleur de sa forme, quelque chose qui ne ressemble qu'aux Stones.
Mais oui, c'est vrai qu'ils sont incomparables. Le chanteur, on n'en trouve pas ailleurs.
Ils ont leur ADN.
Le batteur, on dirait, il est un peu... Il a rien à voir, il est perché.
Non, il est perché. Faut dire comme c'est...
Donc, pour notre prochain tube, Sympathy for the Devil. Quel accent.
Ah, phénoménal.
Évoque clairement de grands événements tragico-historiques comme la révolution russe, l'assassinat du tsar et de sa famille, la seconde guerre mondiale ou l'assassinat de JFK. Des événements que le diable narrateur s'impute comme pour mieux exorciser l'idée que tous ces actes barbares ont été posés par des hommes.
Magnifique.
Voilà, je crois que tout est dit. Et cette chanson, ben moi, c'est ma préférée.
Si ah
y
oui
en a une dans les Stones,
ah ouais, d'accord.
C'est celle-là.
Ah,
avec
pas.
Le petit Congo derrière, le petit rythme samba.
Tout ce qui est diabolique, c'est pour ça que tu aimes un peu.
Ouais, c'est un peu ça.
Tu n'es pas comme ça.
Et en plus, c'est la sixième chanson, il y a le 6 dedans.
Ouais, comme 666, c'est ça,
ça. Voilà.
Oh là là là.
Vas-y, Willy, envoie la sixième chanson, Sympathy for the Devil.
Music Story, RTVFM.
I was puzzling.
Et de retour sur Music Story, vous venez d'écouter Sympathy for the Devil des Stones. On a un petit peu coupé à la fin parce que c'est vrai que c'est. On voulait vous passer la dernière et vous dire.
Et on t'a manque de temps.
Des choses importantes à vous dire quand même. Hein.
Trop de ouh.
Trop de ouh à la fin, ouais. Bon. En chiffres, pour résumer, Mick Jagger, donc c'est lui un peu le. Le patron.
Ah, c'est le symbole un peu des Stones. Ça.
En chiffres, Mick Jagger, c'est 4000 conquêtes présumées, féminines.
Ou pas.
Ou pas. 52 ans de carrière derrière lui, et donc avec les Stones. 8 enfants légitimes, bon, ça encore ça va.
Oh, ça
sauf que le dernier, il a eu à 73 ans quand même.
Et combien d'illégitimes?
Je sais pas. 5000 euros, ça c'est une de ses mèches qu'il a vendue, qui a été coupée par Chrissy Shrimpton, l'une de ses meilleures petites amies dans les années 60.
Quoi, c'est énorme. Ensuite, on parle de sa discographie, 34 albums, dont 29 avec les Stones et 5 en solo. 13 films à son actif, comme Performance, aux côtés d'Anita Pallenberg. 66 ans d'amitié avec Keith Richards qu'il a rencontré sur les bancs de l'école. Je nous souhaite la même, mon garçon. Ça voudra dire comment vieillir, c'est bien déjà. On vous l'a dit en début d'émission, 1 500 000 spectateurs lors du show des Stones à Copacabana Beach à Rio en 2008. Et ça, c'est une estimation, 250 millions de singles vendus à travers le monde.
Voilà, ça voilà. C'était pour les
ça, chiffres. Ça c'était quelques chiffres là, parce que comme il est un peu impressionnant, on a dit bon, on va vous mettre tout le monde d'accord, ouais, voilà, etc.
Donc voilà, il y a aussi le livre Life de Keith Richard que tu disais là, qui est super, qui explique la vie de Keith Richard. Elle est rock'n'roll sa vie. Vous allez voir, vous allez.
Vous allez pas tenir comme lui.
Vous allez vous dire comment ça se fait qu'il est toujours là. Donc, on vous remercie de nous avoir écoutés.
Et oui, c'était la dernière. Hein.
C'était la dernière.
De l'année scolaire.
De l'année scolaire. On se retrouve donc en octobre.
C'est ça.
Pour une prochaine émission avec toujours Willy qui est caché derrière.
Si tout va bien.
Bah oui, tout ira bien.
Tout ira bien.
William Pouli.
Oui. Oh, tu sais, je vais aller dans les îles et tout. Un coup de soleil, c'est vite fait. Hein.
Oui. Ouais, bah... C'est vrai qu'il tient pas trop de cailloux sur de poils sur le caillou quand même.
Ah oui, d'accord. Oui. Non, t'es pas obligé de dire ça.
Vous le voyez
je
pas à la radio.
Je les ai cachés
mais...
derrière.
Ah, c'est pour ça.
Ah, ok, sous le casque. C'est ça.
Voilà. Donc on se retrouve. Ben alors en octobre.
Ouais.
On vous souhaite de passer un bon été.
Merci encore d'être là, de nous écouter.
Bien sûr.
N'hésitez pas à mettre des commentaires la prochaine fois.
Voilà.
On remet notre cadeau en jeu. Et il est là sur la table, il vous attend. On le remet en jeu en octobre.
Ouais, c'est une surprise.
C'est une surprise, on vous dit pas.
Allez, bah moi aussi je vous dis à très très bientôt. Après les vacances, bonnes vacances à tous.
Ouais.
À vous. Et puis soyez prudents surtout. Hein.
Ouais.
Pas de soucis. On se quitte sur Let It Bleed des Rolling Stones. Ciao ciao.
Ciao, merci.
Music Story, RTVFM. Vous ne pourrez plus jamais écouter la radio comme avant.